de Saint-Simonisme s'est développé entre 1825 et 1832. Sur le plan de l'histoire collective du mouvement, de l'histoire officielle du mouvement, c'est tout, ça s'arrête là. Mais les Saint-Simoniens, parce qu'ils étaient pour la plupart des ingénieurs, des juristes, des médecins, des polytechniciens, des gens du corps des mines, ont fait par la suite, pour la plupart d'entre eux, de très belles carrières, qui, alors parfois dans le journalisme, la politique, dans les chemins de fer, dans les affaires, dans la banque, effectivement, mine de rien, ils ont contribué à diffuser ces idées qui étaient celles de leur jeunesse, et surtout les mettre en pratique, autant qu'ils ont pu, et parfois avec quand même une très grande réussite. Alors évidemment, ça n'était pas fait sous la bannière du Saint-Simonisme, quand on parle des chemins de fer, les Saint-Simoniens n'ont pas créé les chemins de fer français à eux tout seuls, bien sûr, mais enfin ils étaient là, à des postes assez importants. Effectivement, c'est le genre de choses qui étaient tout à fait en conformité avec leur projet de 1830. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en évidence, et puis de montrer, donc, de suivre cette génération, parce que c'est vraiment une génération, de 1825 à 1860, 64, 65, 69, en nous arrêtant au canal de Suez, qui peut être l'une des plus belles réalisations, sinon la plus belle réalisation à laquelle les Saint-Simoniens aient contribué. En préparant un tout petit peu ma venue ici, je me suis rendu compte que Auguste Perdonnet, donc le premier président de la Bibliothèque des Amis de l'Instruction, est présenté comme un Saint-Simonien dans l'article des lieux de mémoire. Alors on m'a détrompé en arrivant ici, c'est peut-être pas si évident que ça. En tout cas, c'est vrai qu'il a tout à fait le profil. Il a tout à fait le profil de la plupart des Saint-Simoniens, donc polytechnicien, ingénieur des mines, administrateur directeur du chemin de fer de l'Est. Et selon le mot de Jean-Pierre Rioux le présente comme l'un des jeunes Saint-Simoniens qui lance par le rail l'humanité vers le progrès et le bonheur. Ça, c'est complètement Saint-Simonien, cette idée-là, que par le progrès technique et puis aussi par l'instruction, évidemment, c'est essentiel aussi dans le projet Saint-Simonien. On va emmener l'humanité vers un âge d'or qui est bien devant et pas derrière nous, comme l'institution ecclésiale et le catholicisme nous l'enseignent généralement. Alors, si vous le permettez, je vais parcourir un petit peu le siècle en donnant un petit peu les points essentiels du développement de la doctrine saint-simonienne et de l'histoire saint-simonienne. Et puis, je vais vous raconter un petit peu aussi comment cette exposition s'est montée, quelles ont été peut-être les bonnes surprises aussi de cette exposition, puisque vous savez qu'on part avec des idées en tête, et puis finalement, on a largement l'occasion au cours de la préparation d'une exposition de découvrir de nouvelles choses, et puis finalement, de modifier un petit peu le propos. Alors, parlons de Saint-Simon. Le Saint-Simon qui nous intéresse n'est pas, évidemment, le mémorialiste de Rennes 2014, mais malgré tout, le comte de Saint-Simon appartient à cette très grande famille de l'aristocratie française. Et ça pèse. Ça pèse parce que même s'il rompt avec tout cet héritage, finalement Saint-Simon reste un peu pétri d'ambiguïté. Il reste l'héritier de ce lignage et Charlemagne, qui fait partie de ses ascendants, acceptons-le, Saint-Simon prétendait que Charlemagne lui parlait en songe et qu'il aurait été à l'origine d'un certain nombre de ses inspirations philosophiques. Bon, Saint-Simon a parfois des illuminations de ce genre-là, mais en tout cas vous voyez que son lignage, c'est quand même quelque chose de très important et il a conscience d'être un très grand aristocrate. Et quand, au moment de la Révolution française, il prend fait et cause pour la Révolution et qu'il renonce à son titre, à sa particule et à tous les avantages que lui procurait sa naissance, c'est évidemment un engagement absolument complet et total et irréversible. Donc c'est tout de même important d'avoir ça en tête. Donc Saint-Simon, au moment de la Révolution française, se fait entrepreneur. Alors à ce moment-là, il spécule avec un certain bonheur sur les biens qui ont été confisqués au clergé et à la noblesse émigrée. Et à l'âge mûr, disons, il se voue entièrement à la philosophie. Et là, il appelle à une révolution scientifique. Il considère que la révolution n'est pas terminée. Et qu'il faut achever cette révolution française et fonder un nouveau système, un système qu'il appelle industriel, et orchestrer une nouvelle hiérarchie et confier les rênes du pays aux gens qui sont vraiment des industriels, des producteurs, des gens qui travaillent, qui ne sont pas des oisifs. Donc Saint-Simon estime que vraiment la destination de l'espèce humaine, c'est de travailler et c'est de produire. Donc oui, qu'il est complètement à l'encontre des privilèges de sa classe, de sa propre classe. Son projet comprend également un volet social, et pour lui, ce développement de l'industrie doit profiter à la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, son expression exacte est que cela doit contribuer à l'amélioration de l'existence physique et morale de la classe la plus pauvre. Ça va rester le mot d'ordre des Saint-Simoniens pendant tout le développement de la doctrine. S'y ajoute l'idée qu'il faut refonder le christianisme, que l'institution ecclésiale, dit-il, a complètement perverti, et revenir à la morale paulinienne d'amour fraternel, donc revenir à la pureté initiale du catholicisme. Et donc mais finalement, si on développe tout cela, avec le développement de l'industrie, l'amélioration du sort des plus pauvres, et cette fraternité qui doit s'établir entre les hommes, eh bien, encore une fois, je le disais tout à l'heure, l'âge d'or est devant nous, et ça c'est l'expression de Saint-Simon. Évidemment, c'est ce qui a valu à Saint-Simon l'étiquette d'utopiste. Vous verrez qu'au cours de l'exposition, on a évité d'employer ce mot absolument parce que nos Saint-Simoniens ont bien les pieds sur terre. Et malgré l'épisode très folklorique de Ménilmontant avec le costume qui s'accroche en l'eau, les chants, etc., ils ont réalisé beaucoup de choses par la suite. Alors, dans l'exposition, on a présenté quelques éléments qui contribuent à la légende de Saint-Simon, parce que Saint-Simon disparaît en 1825, entouré de très très peu de fidèles, et en fait, il a vécu la fin de sa vie dans une misère absolue. Mais la légende s'empare très vite de son personnage. Alors, il y a quelques pièces qui sont assez rares et qu'on a tenu à présenter. Alors, d'une part, le crâne de Saint-Simon. C'est un peu glauque de le présenter comme ça, mais ce crâne a d'abord été un objet d'étude, parce que Saint-Simon était un génie, une personnalité intellectuelle exceptionnelle de son temps, et Gall, le fondateur de la phrénologie, l'a côtoyé dans ses derniers instants. Donc Gall a étudié son crâne et son cerveau, et par la suite ce crâne a été conservé comme une relique, vraiment comme une relique, par les héritiers spirituels de Saint-Simon, et donc aujourd'hui il est conservé au Muséum National d'Histoire Naturelle. Donc on l'a présenté à ce titre. Et puis deux autres pièces, sur lesquelles je vais m'attarder un petit peu, on a une effigie de Saint-Simon. En fait, on a deux portraits de Saint-Simon qui sont assez amusants à mettre en parallèle, parce qu'il y en a un où Saint-Simon est présenté en aristocrate du XVIIIe, avec son habit à la française, un homme de son temps et de sa classe. Et puis on a un autre portrait, lui présenté en effigie, et avec un tout petit foulard, un petit bandana, façon ouvrier. Et ça, c'est une image reconstituée, parce que c'est une image en fait qui date des années 1840, donc de la diffusion des idées sur Saint-Simon. Donc on voit que le personnage de Saint-Simon est assez rapidement vu comme un précurseur. La dernière pièce que je voulais vous évoquer, c'est un jeu de cartes, qui est une pièce extrêmement rare. C'est un jeu de cartes révolutionnaire qu'on a tenu à présenter parce qu'il est attribué à Saint-Simon, ce qui est absolument apocryphe. Mais il lui a été attribué parce que les têtes représentent la liberté de la presse, le génie du commerce, la liberté de mariage, l'égalité des races, autant d'idées qui ont été défendues par Saint-Simon. Et donc ce jeu de cartes lui a été attribué par la suite, en réalité, il est complètement apocryphe. Donc voilà. Sur quoi nous avons clos cette partie sur Saint-Simon. La bonne surprise en préparant cette exposition, c'est que nous avons rencontré un collectionneur qui s'est passionné pour Saint-Simon. Alors au départ, lui, il s'est passionné pour le duc, et puis finalement, de génération en génération, il est descendu jusqu'au comte, et il possède un certain nombre de papiers qu'on croyait complètement perdus, et en particulier, il possède un buste de Saint-Simon dont on avait juste une photo à l'arsenal, et dont on ne savait pas qu'il était passé. Mais ce buste, en fait, tout simplement, était resté dans la famille, et à un moment, la famille a dû avoir des difficultés financières, et l'ont rendu aujourd'hui dans une collection particulière. Philippe Régnier a retrouvé la trace de ce buste, je ne sais pas, peut-être 6 mois avant l'ouverture de l'exposition, ça fait vraiment partie des très bonnes surprises. Alors, pour ce qui est du développement de la doctrine saint-simonienne, l'école se fonde autour de ce petit noyau de disciples à partir de 1825, et le groupe se soude autour d'un périodique, d'un journal qui s'appelle Le Producteur, qui était un projet de Saint-Simon, qu'il n'avait pas eu le loisir de réaliser, et que donc ses héritiers intellectuels fondent en sa mémoire. Alors, dans ce petit noyau, en fait, eh bien, croit assez rapidement. Alors, les personnages essentiels de cette période sont Olin de Rodrigue, le dernier secrétaire de Saint-Simon et donc son héritier spirituel le plus légitime, qui a succédé quand même, ce n'est pas rien, à Augustin Thierry et surtout à Auguste Comte, qui a rédigé aux côtés de Saint-Simon ce qu'il a appelé lui-même son opuscule fondamental et donc l'élément fondamental de sa philosophie positiviste. Deuxième personnage important, Prosper Enfanda, dont on parle beaucoup par la suite, parce que c'est lui qui a eu le plus grand charisme dans ce mouvement, mais finalement il l'a un petit peu absorbé. Pour la postérité, c'est lui qui a posé pour la postérité, mais finalement il s'est approprié tout l'héritage saint-simonien qui est en réalité beaucoup plus divers que cela. J'espère avoir le temps d'en toucher deux mots. Et l'autre personnage important, c'est Bazar, un ancien carbonaro, militant politique aguerri, qui a participé au complot de Belfort et qui a été pour cela condamné à mort par contumace et contraint à vivre quelque temps dans la clandestinité. C'est la tête politique du moment et c'est lui qui oriente le mouvement sur le terrain de la lutte contre l'exploitation de l'homme par l'homme, formule que l'on connaît plutôt sous la plume de Marx, et en fait qui figure sur un tableau du dogme saint-simonien qui date de 1831, que vous verrez dans cette exposition, là aussi une pièce assez rare, où on voit les éléments essentiels de la doctrine saint-simonienne, en tête Dieu, à la fin Dieu également. Et puis quelques éléments clés, l'idée d'association entre les hommes, que l'on peut comprendre comme une association fraternelle, au sens où l'entendait saint-simon, peut-être aussi comme une association économique, enfin, vous voyez, une société également. Alors, le mouvement s'organise assez rapidement, se transforme en religion, et donc, à la tête du mouvement saint-simonien, sont nommés deux pères suprêmes, alors là aussi, les termes ont beaucoup d'importance et sont assez connus, donc les deux pères suprêmes de la religion saint-simonienne sont Enfantin et Bazar. Donc, Enfantin, plutôt le meneur d'hommes, et Bazar, la tête politique. Alors, dès ce moment-là, les saint-simoniens font preuve d'un grand sens de la communication, c'est-à-dire ils utilisent tous les moyens à leur disposition pour faire connaître le mouvement. Alors le plus simple, c'est plus coûteux, mais enfin bon, peut-être le plus logique à ce moment-là, sont les écrits. Donc la diffusion de brochures, de tracts aussi, qui sont distribués dans Paris, et puis la diffusion de journaux, successivement Le Producteur, L'Organisateur et Le Globe. Là, c'est leur coup de maître, d'avoir mis la main sur ce quotidien à grand tirage, quotidien libéral, qui était le Globe en 1830. Ils payent également de leur personne, si j'ose dire, puisqu'un certain nombre de missions sont envoyées en province et à l'étranger pour diffuser la doctrine saint-simonienne. Et à Paris se tiennent des séances publiques absolument vibrantes. Un certain nombre de saint-simoniens étaient de grands orateurs. Et n'oublions pas qu'on est en pleine période romantique. Donc, quand même, là aussi, quand on lit un petit peu les brochures saint-simoniennes, un vocabulaire propre à cette période, mais c'est tout à fait touchant. Et vraiment, ces séances rencontraient un grand succès. De plus en plus, leur audience dépasse le cadre des intellectuels, c'est-à-dire des ingénieurs, des médecins, des juristes, de ces capacités qui sont les premières sensibles à la doctrine saint-simonienne, puisque la doctrine saint-simonienne leur dit « abolissons les privilèges de la naissance et donnons à chacun la place qui lui revient dans la société. » Donc évidemment, ils sont les premiers séduits, très logiquement, par cette doctrine. Mais le mouvement, de plus en plus, attire également des ouvriers. Alors évidemment, c'est ce qui va commencer à inquiéter un peu. Les habitués de la bibliothèque des amis d'instruction, on n'est pas sans savoir que l'instruction des ouvriers, ça fait toujours un peu peur. Et puis, les saint-simoniens sont également, à ce moment-là, visibles. Je m'explique, ils commencent à porter un habit bleu avec une couleur différente en fonction de leur rang dans la hiérarchie saint-simonienne. Donc le saint-simonie, c'est quelque chose qui se voit aussi dans la rue. Mais à ce moment-là, les saint-simoniens sont très fréquentables. C'est-à-dire, oublions ce qu'on sait d'enfantin et de ses frasques, de l'image qui lui est attachée, de séducteur, de coureur de jupons, de gourou. Et pensons qu'à cette époque-là, les saint-simoniens sont invités dans les soirées, sont connus dans tout Paris littéraire et intellectuel. Eux-mêmes donnent des soirées dans ce qui est une sorte de maison commune, les rues Manzini. Et ils sont invités, alors ça vous y penserez quand vous irez visiter l'exposition, ils sont invités à l'Arsenal, ils sont invités chez Charles Maudier. Également, la salle qui est consacrée aux années bazar, à cette période de diffusion de la doctrine, se trouve dans le salon Maudier. Alors, vous, maintenant, vous le savez, donc vous y penserez. Cette salle a sans doute résonné de l'écho des voix d'un certain nombre de saint-simoniens. Alors, des gens comme Nice, Berlioz, Zimbabwe, Georges Sand ont entendu le discours des saint-simoniens. Alors, j'ai pas beaucoup parlé de la doctrine, je vais en toucher deux mots. Quelle est-elle, cette doctrine? Alors, c'est un projet global, et c'est ça qui est assez fascinant chez les saint-simoniens, c'est qu'ils ont brassé un nombre d'idées absolument considérable, on a l'impression qu'ils ont pensé à tout. Alors, quelques exemples. Sur le plan économique, deux piliers essentiels de leur doctrine étaient l'idée qu'il fallait développer le crédit afin de soutenir l'investissement industriel, puisqu'à ce moment-là, en fait, la banque française fonctionne encore selon le système, ce qu'on appelle la haute banque, c'est-à-dire des banquiers qui sont assis en fait sur des fortunes familiales et qui finalement ne prêtent qu'aux riches. Et donc, l'investissement prenne assez peu, en tout cas au goût des saint-simoniens, de risques dans le domaine industriel. Donc, développer le crédit et développer les voies de communication. Alors, développer la circulation des marchandises, mais aussi des hommes, il y a des très humanistes à la dernière, et développer également la circulation d'argent, évidemment, ça va avec le crédit. J'ai déjà parlé de l'abolition des privilèges de la naissance, les saint-simoniens reprennent absolument l'idée de Saint-Simon, selon laquelle l'éducation doit être le pilier de la société, que tout le monde doit recevoir cette éducation, qui va permettre de déceler les talents potentiels, et donc de donner à chacun la place qui lui revient dans la société. L'un des slogans des saint-simoniens à cette époque-là est « À chacun selon ses capacités, à chaque capacité selon ses œuvres. » Évidemment, on reprend l'idée qu'il est absolument essentiel dans une société de contribuer à l'amélioration du sort moral, physique et intellectuel. Trois éléments de la classe la plus nombreuse et la plus. Alors, à la fin de l'année 1831, les saint-simoniens se déchirent complètement autour d'une question qui est relative à la morale conjugale et à la place de la femme dans la société. Il n'a pas échappé aux saint-simoniens et aux saint-simoniennes qui sont dans le grand groupe. Mais comme à ça, les femmes sont un peu vendues par leur père à leur mari et qu'elles n'ont pas tout à fait la liberté de corps et d'esprit qu'ont les hommes à ce moment-là. Alors les saint-simoniens acceptent des femmes au sommet de leur hiérarchie, c'est-à-dire dans le collège saint-simonien. Il y a deux femmes, Claire Bazard et Cécile Fournel, qui sont toutes les deux l'épouse de saint-simoniens. Il y a pas mal de saint-simoniens qui sont entrés un peu en famille. Et donc, Enfantin va très très loin sur cette question. Il propose deux choses. La première, c'est que pour vraiment montrer l'exemple, mais à la tête de la religion saint-simonienne, il faut qu'il y ait une femme et un homme, un couple sacerdotal. Et là où il va très loin, c'est qu'il propose que ce couple utilise tous ses attraits physiques comme intellectuels pour attirer de nouveaux fidèles. Alors évidemment, ça pose beaucoup de questions. Les attraits physiques, jusqu'où on va? Alors Enfantin, mais jusqu'au bout, hein, ça ne pose pas de problème. Ce qu'il propose, c'est vraiment l'amour divin, hein, complètement. Et ce qui pose problème, c'est que Saint-Amand Bazard, l'autre père suprême, Marie, il a une épouse qui est charmante, qui, comme je vous disais, est le premier membre du collège. Vous verrez dans l'exposition la liste des membres du collège. Claire Bazard est en tête. Alors qu'est-ce qu'on fait de Claire Bazard? On se la partage. Enfin, vous voyez, c'est quand même un peu bizarre. Donc évidemment, ça pose pas mal de questions. Surtout Claire Bazard elle-même est assez gênée. Elle a une lettre très belle que vous lirez à l'Arsenal où elle dit « En vain, vous me placeriez sur un trône. En vain, vous me placeriez au-dessus de toutes les femmes. Elle n'y verrait pas leur élévation, mais une élévation personnelle. Mais assignez-moi la moindre place au lieu de mes frères, vous verrez si la doctrine ne sera pas mieux remplie. Donc elle est assez lucide là-dessus, elle ne souhaite pas, elle, devenir la mère. Et puis en fait, Enfantin utilise pour discréditer Bazar des confidences qu'elle lui a faites parce qu'elle n'est pas très heureuse en ménage. Alors finalement, elle discrédite le mariage de quoi ? Et à ce moment-là, en fait, toute une frange des Saint-Simoniens rompt avec le Saint-Simonisme et avec Enfantin en particulier, derrière Bazar, qui quitte le mouvement absolument épuisé, il meurt quelques mois après, épuisé moralement, physiquement, et son épouse quitte le mouvement derrière lui, quitte alors le mouvement avec lui, la plupart des républicains et un grand nombre de têtes mouvement. Alors parmi eux, Pierre Leroux, républicain, Hippolyte Carnot, futur ministre de l'Instruction publique, les Pereire, qui seront quelques décennies plus tard à la tête d'un des plus grands empires industriels de la France, Édouard Charton, le fondateur du magasin pittoresque et l'illustration, s'en va également à ce moment-là. Bûcher, lui, était parti déjà avant le schisme, en fait, parce qu'il était très opposé à cette hiérarchie qui se mettait en place et à cette nouvelle église qui prétendait être une nouvelle église. Donc un certain nombre de personnages, personnalités qui comptent dans l'histoire du XIXe siècle, ont été saint-simoniens, très sincèrement, mais qui peuvent mouvement à ce moment-là. Enfantin, finalement, qui est resté le personnage le plus célèbre du mouvement, s'est approprié l'intégralité d'un héritage. Il a un petit peu usurpé, d'une certaine manière, puisqu'on oublie quelle a été la variété des échanges à ce moment-là et la qualité des personnalités qui faisaient partie du groupe. Donc le schisme est provoqué donc à la fin de l'année 1831. Alors 1832, c'est l'année de l'apogée, c'est la chute en même temps du saint-simonisme, puisque les taux se resserrent en fait, autour des derniers saint-simoniens. Un étau policier, d'abord. Le journal Le Globe est perquisitionné, on ferme les salles où se tenaient les séances d'exposition publique. Encore une fois, on est inquiet des progrès de la doctrine dans la classe ouvrière. Et puis les saint-simoniens sont également en but à d'insurmontables difficultés financières. Il faut faire vivre ce mouvement, il faut faire vivre ses familles, il faut éditer Le Globe, il faut publier les brochures et les tracts. Tout ça, ça a un coût. Un certain nombre de saint-simoniens avaient de belles situations et ont offert, ont vraiment sacrifié pour le saint-simonisme, mais tout ça ne suffit pas. Donc, au printemps 1832, en fait, tout est quasiment déjà consommé quand Enfantin décide un coup de théâtre. Finalement, mais puisque le monde ne veut pas de nous, retirons-nous. Et Enfantin se retire dans une maison qu'il possède à Ménilmontant avec 40 de ses fils, c'est la terminologie. Et donc là, c'est vraiment l'image que l'on connaît, la plus célèbre du père Enfantin au milieu de ses apôtres à Ménilmontant, avec tous les rituels qui sont caractéristiques de la vie à Ménilmontant. Là où on voit que ce mouvement, enfin à ce moment-là, cette communauté n'a pas d'avenir, c'est que les femmes sont restées à la porte. Alors qu'auparavant, on avait pensé à un mariage saint-simonien, on avait pensé à un baptême saint-simonien, on avait pensé à l'éducation des enfants. Donc vous voyez, loin. Là, cette communauté, c'est une communauté égalitaire, mais célibataire. Bon, c'est vrai qu'on sent que c'est déjà un petit peu la fin, même si c'est un coup de théâtre tout à fait retentissant. Donc, les femmes restent à la porte. Enfantin leur déclare, cette question de la morale est extrêmement épineuse, la morale conjugale. C'est vous qui êtes maîtresse de la morale de l'avenir, c'est à vous de la construire, cette morale. Donc finalement, les femmes restent à la porte de Ménilmontant, ce qui a sans doute été assez difficile, j'imagine, pour elles, parce que je pense qu'un certain nombre de saint-simoniennes se sont retrouvées un petit peu livrées à elles-mêmes avec l'étiquette de prostituée. Je pense que ça allait quasiment jusque-là dans ces années-là, donc ça devait vraiment être très difficile de vivre après s'être engagée dans ce mouvement. Je suis très critique vis-à-vis d'Enfantin, finalement, parce que je pense que c'est pas un personnage absolument sympathique, même s'il est... extraordinairement intelligent et un meneur d'hommes tout à fait charismatique. Là, je crois, un petit peu abandonné les femmes au milieu du guet. Mais cela dit, un certain nombre d'entre elles vont continuer de militer. Alors, Suzanne Walker, qui est très connue, d'une part, elle a œuvré en Égypte, elle est devenue sage-femme, et puis, c'est un parcours tout à fait intéressant, elle a une œuvre de journaliste, Claire Desmarres, donc, qui est elle aussi l'une des pionnières du féminisme, de la pensée féministe, qui avait écrit un ouvrage assez fort, hein, en disant que le mariage était une prostitution de par la loi. Cécile Fournel, qui est donc l'épouse d'un ingénieur Fournel, qui était entrée à Ménilmontant et qui a probablement contribué à sauver les archives du mouvement. Ce sont un peu les femmes qui ont organisé les archives du mouvement. Je vous expliquerai après comment elles sont arrivées à leur sommet. Voilà un certain nombre de femmes qui ont participé au mouvement saint-simonien et qui se sont véritablement engagées dans ce mouvement. Et qui doivent trouver une voie alors après Ménilmontant. Alors, justement, l'organe de presse par lequel ces anciennes saint-simoniennes s'expliquent, c'est La Voix des Femmes. Je connais La Voix d'abord. Donc, l'épisode de Ménilmontant dure un bel été, c'est une flambée d'un été. Donc, on vit au rythme des cérémonies rituelles, des chants qui sont composés par Félicien David, le compositeur donc des chants saint-simoniens. Alors, l'une aussi des très belles surprises qu'on a eues dans cette exposition, c'est qu'on a retrouvé un enregistrement qui a été fait dans la décennie 1930 d'un chant qui s'appelle La Ronde, dont les paroles au départ étaient complètement à la gloire du Père, donc soldat, ouvrier, bourgeois, aimé notre Père. Et les paroles, donc, dans cette décennie, alors je ne sais pas exactement quand ça a été enregistré, mais au département de l'audiovisuel, on m'a confirmé que le label était sans doute assez proche de la SFIO. Donc ce chant a été enregistré, donc 100 ans après l'épisode de Ménilmontant, avec des paroles évidemment modifiées. Compagnons de tout métier, aimez-vous en vous. Alors si vous venez à l'Arsenal, je vous en prie, prenez le temps d'écouter ce chant, parce que c'est vraiment très émouvant. Et c'est un chant tout à fait conforme, je pense, à l'esprit de Ménilmontant, sauf qu'il a été enregistré avec un cœur d'homme et de femme, alors qu'à Ménilmontant, il n'y avait pas de femme. C'était l'un des éléments du sectarisme d'enfantin à ce moment. Et je crois que finalement, j'ai oublié d'évoquer ce fameux gilet, mais je pense que vous le connaissez tous, le gilet qui a été porté à ce moment-là. Alors à l'Arsenal, on possède, et on est très fiers, le gilet d'enfantin, qui se boutonne dans le dos et qui est brodé sur le devant. Alors par la suite, les Saint-Simoniens doivent trouver une issue, parce qu'en août 1832, un procès a été intenté contre eux, retentissant, au terme duquel la famille saint-simonienne est condamnée à la dissolution et les principaux chefs de file de la doctrine saint-simonienne envoyés en prison, donc enfantin. Et Michel Chevalier, son second, Michel Chevalier, un autre personnage évidemment très éminent au XIXe siècle, sont envoyés à la prison Sainte-Pélagie, ils vont rester plusieurs mois. Il reste encore, après Ménilmontant, un petit carré de fidèles absolus qui continue de chercher la femme qui va se venir en enfantin et qui rêve que cette femme soit orientale. Alors là aussi, on est à peu près dans les moments où, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est à peu près dans les moments où Hugo publie les orientales. C'est là aussi un contexte, hein. Non plus, ça veut dire qu'ils ne sont pas les seuls à rêver de liens entre l'Orient et l'Occident. Mais eux rêvent que cette femme, qui doit être la mère, eh bien, elle viendra peut-être d'Orient. Donc un certain nombre d'entre eux s'embarquent en costume et tout. Hein. Ils vont franco en Orient pour chercher la femme qui va se venir en fantin. Ils sont très très bien reçus finalement. Et puis le saint-simonisme, là, peut-être connaît ses derniers feux, en tout cas, sous la bannière officielle du mouvement et encore une fois en costume. D'autres saint-simoniens revêtent leur casquette d'ingénieur à ce moment-là et partent eux aussi en Orient. Et enfantin les rejoint, et la première étape de ce voyage en Orient, c'est l'Égypte. C'est vrai aussi qu'à ce moment-là, quelqu'un comme enfantin, s'il part en Égypte, c'est parce que, effectivement, ça fait partie du projet saint-simonien, l'union entre l'Orient et l'Occident, c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'avance. Alors la grande idée des saint-simoniens, et le grand, grand projet d'enfantin à ce moment-là, c'est de creuser l'isthme de Suède. Alors là, non plus, c'est pas seulement le premier. Hein. Enfin, le creusement de l'isthme de Suède a déjà été pensé, étudié par des ingénieurs embarqués par Bonaparte dans la campagne d'Égypte. Les plans à ce moment-là avaient démontré, à tort, mais on ne saura qu'après, qu'il y avait un différentiel énorme entre les deux mondes. Alors les saint-simoniens reprennent leur calcul à ce moment-là. Ce qui leur pose le principal problème, en fait, c'est la politique. C'est-à-dire que ce projet, il ne suffit pas d'avoir le plan, il faut convaincre Mehmet Ali que ce projet est viable et qu'il est intéressant pour lui. Or, Mehmet Ali, il autorise les voyageurs français à circuler, et le firmant est présenté dans l'exposition, et c'est un très beau document. Les saint-simoniens, en particulier Fournel, essayent de convaincre Mehmet Ali, donc soit de creuser l'isthme, soit au moins, à défaut, de construire un chemin de fer. Mehmet Ali n'en veut pas, mais il invite les saint-simoniens à s'engager sur son projet à lui, qui est le projet de barrage sur le Nil. Et les saint-simoniens y vont. Ce qui met fin à l'aventure, en fait, c'est que la peste se déclenche sur le barrage, sur le chantier, et en 1835, les saint-simoniens perdent un certain nombre de ce qu'on peut encore appeler des disciples. Et finalement, l'aventure s'étiole. Ce qui est important, ce qu'il faut vraiment savoir en Égypte, c'est que les saint-simoniens là, enfin, un certain nombre d'entre eux, se sont vraiment engagés d'une manière absolue et totale. Quelqu'un comme Lambert, qui est parti avec eux, l'ingénieur, a travaillé 20 ans au service de Mehmet Ali. En fait, en se mettant ainsi au service d'un souverain étranger, il avait perdu sa nationalité française. Donc il a été réintégré dans sa nationalité française et autorisé a posteriori à exercer ses fonctions d'ingénieur en Égypte par le gouvernement du Philippe. Et il n'est pas le seul à s'être investi comme ça d'une manière absolue. Un autre personnage tout à fait attachant, c'est Ismaël Urbain, et surtout qui a laissé une postérité, parce que j'oublie de vous dire l'essentiel, c'est que Lambert a fondé, était directeur d'une école polytechnique en Égypte. Donc il y a eu là un échange, un vrai journée de coopération entre les ingénieurs français et puis les ingénieurs égyptiens. Donc c'est tout à fait important. Ismaël Urbain, ça me permet de faire la transition avec l'Algérie, qui est là une aventure un peu plus épineuse, qu'on regarde d'un autre œil, l'aventure des saint-simoniens en Algérie. Ismaël Urbain était un métis originaire de Guyane, mulâtre, considéré comme noir, hein, lui. Vous verrez sur la photo qu'il y a à l'Arsenal, il n'était pas noir, hein, mais voilà, pour lui c'était important de se considérer comme tel, hein, c'est un héritage absolument revendiqué. Et donc Ismaël Urbain se fait musulman, change de prénom, c'était pas sa première origine, et donc s'engage lui aussi en Orient, et il va être l'interprète du duc d'Aumale au moment de la conquête en Algérie. Et Ismaël Urbain se prévaut de n'avoir jamais mis la main à l'épée, de n'avoir jamais sorti le poteau. Même s'il a accompagné cette conquête, lui, il était là au titre d'interprète. Là aussi, c'est une conviction saint-simonienne absolue, et qui n'a jamais été démentie par aucun d'entre eux, c'est qu'ils étaient profondément pacifistes. Même au moment de la révolution de 1930, ils ont regardé ce qui se passait avec beaucoup d'intérêt, mais ils n'ont pas encouragé les violences. Et C'est assez ambigu finalement, parce qu'ils encourageaient les Français à secouer le joug de la féodalité, comme vous verrez sur une affiche qui était placardée sur les murs de Paris à l'issue des journaux. Pourtant, ils n'encourageaient pas les violences. Il y a une certaine ambiguïté. Là, en Algérie, on retrouve un petit peu cette ambiguïté. Alors, Enfantin, après l'Égypte, est encore propulsé en Algérie, enfin, on n'est vraiment pas pressé de l'avoir rentré, au titre de membre de la commission scientifique de l'Algérie. Alors, lui, il a une lettre assez amusante où il dit « Moi, ça m'enquiquine profondément, ça ne dit pas comme ça fonctionne. Ça m'enquiquine profondément de mesurer les monnaies des indigènes. Moi, j'aimerais mieux qu'on parle politique. Enfin, » c'est un petit peu le sens de son propos. Et lui, effectivement, il est absolument horrifié par la violence de la conquête. Et en même temps, bah, finalement, il finit par l'accepter. Et puis par se dire qu'il faut penser la colonisation. Donc, si vous voulez, la colonisation pour les Saint-Simoniens, c'est quelque chose qui est accepté. Et l'Algérie est une terre vierge, quasiment, sur laquelle ils vont pouvoir tenter toutes les expériences qu'ils n'ont pu tenter encore. L'établissement de votre communication, peut-être fonder des fermes modèles, il y en a eu une. Les Saint-Simoniens vont être impliqués, enfin, un certain nombre de Saint-Simoniens impliqués dans l'étude du sous-sol et des exploitations minières en Algérie. Vous voyez qu'on contribue à la proposition de notre. Mais avec une idée, quand même, qui reste très importante, qui est que on ne doit pas soumettre les indigènes. Et Aïs Préil-Urbain, dont vous parlez tout à l'heure, est le principal défenseur auprès de Napoléon III de la politique du royaume arabe. Et donc défend l'idée que les indigènes doivent avoir un statut, jouir d'un statut qui ne doit pas être inférieur à celui qu'ont les Français en métropole. Alors évidemment, tout ça, avec notre regard d'aujourd'hui, est quand même pétri d'ambiguïté, parce qu'encore une fois, ils sont quand même allés en Algérie avec probablement la conscience d'une supériorité. Alors, vous connaissez peut-être Michel Levallois, qui est le président de la Société des études saint-simoniennes, qui est un descendant d'Ismaël Urbain, et grâce à qui on a, dans la vitrine consacrée à Ismaël Urbain, des questions touchantes, en particulier donc un portrait d'Ismaël Urbain, photographique, et une photographie d'Abdelkader dédicacée de sa main à son ami Ismaël Urbain. Alors, j'en viens pour conclure aux réalisations des Saint-Simoniens. Sous la monarchie de Juillet ou Second Empire, on a eu l'occasion d'évoquer quelques grands noms du saint-simonisme. Après cette aventure orientale qui est une sorte de laboratoire finalement pour les Saint-Simoniens et une façon de commencer à passer la théorie à la pratique, rentrons en France et voyons quelles sont les grandes entreprises industrielles auxquelles les Saint-Simoniens ont participé. Alors la première, grande réussite, véritablement grande réussite industrielle, c'est la construction du premier chemin de fer de voyageurs, la ligne du Paris à Saint-Germain. Les Saint-Simoniens ont très très largement contribué à sa réussite puisque ce sont les frères Pereire qui l'ont financé et des ingénieurs Saint-Simoniens qui l'ont construit. Alors ce qu'ils ont réussi à faire à ce moment-là, c'est non seulement construire techniquement, prouver que la grande vitesse que l'on atteignait dans les wagons n'était pas dommageable pour la santé humaine, donc, il fallait aussi prouver ça. Il y avait évidemment tout un problème très matériel d'expropriation, enfin, je veux dire, construire une bonne chemin de fer, on sait que c'est quand même compliqué. Donc on est censé vraiment mener ce projet à bien, et ça, c'est en 1837, donc c'est quand même pas si longtemps, après l'épisode de 1830. Et un certain nombre de Saint-Simoniens ont œuvré dans les chemins de fer. On a déjà parlé des frères Pereire. Les chemins de fer ont vraiment été la base de leur empire industriel. On retrouve Enfantin, qui finit par rentrer par la petite porte, et qui, grâce à l'un des membres de sa famille, obtient un poste dans la Compagnie de l'Union, qui est à ce moment-là concessionnaire du chemin de fer de Paris à Lyon. Et puis, comme c'est un meneur d'or, et bien, il réussit une négociation délicate, et ça lui permet de rentrer en grâce dans la société à ce moment-là, et de redevenir fréquentable. Parce qu'encore une fois, c'était vraiment un paria jusqu'ici. Dans l'exposition, vous verrez un portrait où on voit alors Enfantin redevenu imberbe et il trône sur trois ouvrages, la Bible, le Coran et Saint-Simon. Et là, à ce moment-là, il est administrateur du pays. Et il a fini sa vie administrateur du pays. À la suite des fusions qui donnent naissance au PLM, eh bien, on rencontre un certain nombre de Saint-Simoniens au premier poste dans le PLM, en particulier Paulin Talabot, qui est le directeur du PLM. Alors, il n'a pas été, lui, Saint-Simonien complètement engagé, mais il était le frère d'un apôtre de Mélimontant. Les quatre frères de Talabot étaient tout de même imprégné de ces vues-là. Alors vous verrez qu'on a aussi des objets qui ont appartenu à Enfantin, c'est toujours très très touchant. Des couverts de voyage, un jeton d'administrateur, et puis des petites cartes de circulation, c'est important que vous pouvez circuler partout. Alors les Pereire, un empire industriel extraordinaire, et surtout une réussite dans presque tous les domaines. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les Pereire ont révolutionné la banque française. On a parlé du crédit tout à l'heure. Les Pereire ont été à l'origine de la première banque d'affaires en France, qui s'appelle donc le Crédit Immobilier, qui est une banque qui n'a pas vécu très longtemps, mais qui a introduit des innovations qui ont ensuite été absolument pérennes. Et donc, enfin, songeons que le Crédit Immobilier a été fondé en 1952 et que dans les 10, 15, 20 ans qui ont suivi, ont été fondés le Crédit Lyonnais, la Société Générale, le CIC, autant d'établissements bancaires d'un genre absolument nouveau et qui ont tous plus ou moins le même but, parfois par des dépôts allant jusqu'à des dépôts assez petits. Enfin, le Crédit Lyonnais se caractérise par un nombre de succursales tout à fait important sur tout le territoire et un succès absolument foudroyant, mais de drainer les capitaux pour les réinvestir dans l'industrie, puisque chez les Saint-Simoniens, l'argent ne fait pas de l'argent. L'argent est investi, produit quelque chose. Avec l'argent, on fabrique quelque chose, on crée quelque chose. Ceci aussi pour vous expliquer que les Saint-Simoniens dont je vous parle là ont fini leur vie, enfin vous verrez le portrait qu'on verra personnel, hein, c'est avant-après, hein, c'est assez drôle, hein, mais ils sont vraiment de grands noms à ce moment-là, absolument. Des éminences de la France à l'échelle de ce moment-là. Alors souvent on me dit, c'est complètement peut-être bouc de leur part. Je ne crois pas, puisqu'encore une fois, leur slogan, c'était chacun selon ses capacités. Donc eux, ce qu'ils visent, ce n'est pas absolument leur élévation personnelle stricte, c'est aussi un certain investissement. Et souvent, un certain nombre d'entre eux, cela s'accompagne de fondations d'écoles. Il faut savoir si les Saint-Simoniens ont animé entre eux, jusqu'à la fin de leur vie, une société de secours mutuel qui permettait à plus fortunés de venir en aide à ceux qui n'avaient pas aussi bien réussi. Donc il ne faut pas complètement occulter cette dimension. Mais c'est vrai que je pense qu'ils étaient relativement à l'aise avec cette notion-là. Donc là aussi, il y a une certaine ambiguïté, puisque les Saint-Simoniens sont précurseurs du socialisme, mais en même temps, ils ont contribué en tout cas, à fonder la société capitaliste. Mais avec un certain paternalisme, hein, mais d'ailleurs, dans le rapport de l'exposition universelle de 1855, vous connaissez l'ampleur de cet événement à la gloire de l'industrie, donc on retrouve beaucoup d'anciens Saint-Simoniens parmi les membres du jury, ou même à la tête de l'organisation du mouvement. Arnès Dufour, qui a été Saint-Simonien et qui est resté jusqu'à la fin de sa vie le plus fidèle ami d'Enfantin, et l'organisateur, en fait, le secrétaire général de l'exposition universelle, juste en dessous du prince-président. Et la conclusion du rapport, c'est que la mission, c'est bien la certaine vie, c'est à l'amélioration du sort de la classe la plus heureuse et la plus pauvre. Après, chacun pense ce qu'il en veut, mais bon, voilà en tout cas l'objectif qui était assigné au développement de l'industrie. Je vais toucher un petit mot de Michel Chevalier, qui était le second d'Enfantin, qui est donc un personnage très important sous le Second Empire, qui est sénateur, qui est un conseiller de Napoléon III, et qui est, nous, ce qui nous intéressait surtout, c'était le fait qu'il avait été le principal négociateur du traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre en 1860. Donc l'un des artisans, de manière très concrète là encore, du développement des échanges, et là, principalement entre la France et l'Angleterre, qui s'est assorti 15 ans après d'un projet de chemin de fer sous la Manche, auquel Michel Chevalier a été participé. Alors, Michel Chevalier, là, n'a plus aucun rapport avec Enfantin. Et vous verrez dans l'exposition qu'il y a un portrait assez amusant parce qu'Enfantin arbore à nouveau cette période-là son air de prophète, donc il a à nouveau la barbe, on le voit à nouveau avec sa tête de prophète à ce moment-là. Alors je vais juste conclure sur deux éléments qui sont deux projets qui étaient particulièrement importants aux yeux des Saint-Simoniens et qui ont là une envergure internationale. Jusqu'ici on est resté quand même assez franco-franc. Le canal de Suez et l'instauration d'un état de droit international. Donc le canal de Suez d'abord, alors ça c'est vraiment le grand projet d'Enfantin. Je crois qu'il aurait vraiment aimé que le canal de Suez reste attaché à sa personnalité, à son nom. Alors, comment l'aventure s'est-elle déroulée? Les Saint-Simoniens avaient donc déjà travaillé à cette idée en 1833. Ils avaient rencontré Ferdinand Lesseps, qui était diplomate en Égypte. Et dans les années 40, donc je disais, Enfantin rentre péniblement en France, enfin péniblement, il a du mal à rentrer en grâce. Il n'a pas lâché cette idée-là et il fonde une société d'études pour le creusement du canal de Suez, une société internationale, avec des ingénieurs allemands, italiens, anglais, j'en oublie, autrichiens, et des Français, et parmi les Français, on retrouve Linan de Belfond, qui était géographe au service de l'Italie et qui s'était rapproché des Saint-Simoniens en 1833. Mais finalement, les Saint-Simoniens démontrent que finalement, ce différentiel que l'on croyait exister entre les deux mers n'existe pas. Du coup, il faut reprendre le plan. Alors, il y a plusieurs projets qui voient le jour, avec deux grandes idées maîtresses, à soit un tracé direct, qui est le plus connu pour le canal, ou un tracé indirect, qui va suivre un petit peu l'isthme, qui aurait pour avantage d'irriguer un peu davantage en profondeur le pays. Alors leur problème, à ce moment-là, aux Saint-Simoniens, c'est qu'ils n'ont pas d'appui politique. Ils ont des calculs, mais ça n'avance pas, puisqu'ils n'ont pas d'appui diplomatique. Donc c'est à ce moment-là qu'ils reprennent contact avec Lesseps. Et c'est Lesseps qui fait aboutir le projet, moyennant l'éviction d'Enfantin et de la société d'études du canal de Suez, parce qu'Enfantin était vraiment trop profond. Sa personnalité politique était vraiment très très soufflue. Bon, je dis ça, Fernand Lesseps, apparemment, c'est jamais tellement expliqué sur les raisons qui l'ont amené à se séparer d'Enfantin. Imaginer effectivement assez facilement que, sans être absolument pro-saint-simonien, que effectivement son passé était quand même assez lourd. Merci de votre attention.
Merci à vous de vous. Si on peut encore abuser un tout petit peu de votre courage, et si vous pouvez nous dire juste en deux mots, nous rappeler que vraiment ce fonds saint-simonien est entré à l'arsenal.
Tout à fait. Alors le fonds saint-simonien est entré à l'arsenal par la volonté d'Enfantin. Et on peut considérer que c'est le dernier acte militant d'Enfantin. Alors les archives qu'il détenait, qui étaient à la fois les archives du mouvement, donc toutes les archives de la doctrine, y compris tout ce qui avait été copié à Ménilmontant pendant des soirées, et sauvé encore une fois plutôt par les fous, parce qu'après Ménilmontant c'était quand même un peu la débandade, Enfantin en avait la disposition, et donc il a souhaité léguer ce fonds et ses archives personnelles, donc avec les traces de tout ce qu'il avait réalisé au service des chemins de fer du PLN et au service de la cause du canal de Suez, que soit mis à disposition du public. On a à l'Arsenal une lettre d'Enfantin, Victor Duruy, donc demandant que ce fonds intègre les fonds de la bibliothèque de l'Arsenal, ce qui est assez atypique, parce que comme vous le savez, la bibliothèque de l'Arsenal est une bibliothèque littéraire. Et l'idée d'Enfantin, c'était de fonder plus ou moins une bibliothèque des sciences sociales. Vraiment, c'était encore une fois l'enrichir d'autres choses. Donc probablement, la visée d'Enfantin, c'est quand même ce qui est assez sympathique de sa part, c'est que ça dépasse aussi simplement le mouvement saint-simonien. Alors, par contre, ça ne s'est pas vraiment réalisé, puisque le fonds saint-simonien est quand même assez isolé au sein de la bibliothèque de l'Arsenal, même si la bibliothèque de l'Arsenal ayant reçu des dépôts légaux tout au long du XIXe siècle, c'est vrai que les autres penseurs socialistes ou grands utopistes sont aussi pas trop mal représentés à l'Arsenal. Alors c'est probablement son dernier acte militant. Alors quand vous viendrez à l'Arsenal, vous ferez attention, quand on monte l'escalier d'honneur qui mène à la salle de lecture, il y a deux grandes portes, le cabinet Lamayrette, qui est dévoué du XVIIe siècle, qui se visite, hein, à conditions assez restrictives malheureusement, mais enfin, qui se visite, et plus à la gauche, il y a une salle qui est fermée, et si vous regardez bien, vous verrez salle Enfantin. Vous avez prévu au départ que cette salle soit vraiment dévolue à la consultation du fonds Enfantin. C'était barbouillé, ça se voit encore un peu. Le jour où je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ça y est, je deviens folle, je vois Enfantin partout. Je lisais vaguement Enfantin là-dessus, déjà, ça devient grave. Mais en fait, non, c'était bien la salle qui était probablement dévolue à ce fonds. Alors, en fait, ce bureau ensuite a été dévolu à Rondel, le banquier qui a été à l'origine de la fondation du département des arts du spectacle, de la grande collection théâtrale qui est aujourd'hui à Richelieu chez nos collègues des arts du spectacle. Et donc, maintenant que nos collègues sont partis, on va restituer cette salle au fonds Enfantin et à la Société des Tout Saint-Simonien. Et on va essayer d'y installer le petit musée, parce qu'on a vraiment à l'Arsenal des bustes, des tableaux, des objets qui sont là accrochés dans une salle qui a son charme, mais qui est quand même un assez mauvais magasin. Et on fait une espèce de petit musée qui serait un petit peu plus ouvert et où nos amis de la Société des Tout Saint-Simonien pourront venir travailler. Alors, si vous êtes intéressé par l'œuvre des Saint-Simoniens en Orient, c'est vraiment pas le sujet sur lequel je suis le plus à l'aise. Bon, déjà, c'est Philippe René, le spécialiste. Tout ce que je vous ai raconté là, c'est grâce à lui que je le sais. Philippe a organisé, il y a une quinzaine d'années, une exposition qui s'appelait Les Saint-Simoniens en Égypte et qui a été présentée à l'Institut du Monde Arabe et au Caire. Le catalogue est encore disponible. Là, vous aurez tous les détails sur, plutôt sur la construction des plans et tout, l'avancée de cette épopée qui a été le creusement du canal de Suez. Et pour la partie algérienne, c'est plutôt M. Levallois, justement, là, qui est très compétent sur la question. Il a beaucoup travaillé ces dernières années à l'édition des textes de son ancêtre, Ismaïl Urbain. Et je crois qu'il vient de publier une biographie, enfin, je crois que c'est pour une autre conquête de l'Algérie, sur l'œuvre d'Ismaïl Urbain. C'est pas mal de travaux qui se font en ce moment. Le saint-simonisme est quand même un sujet assez porteur. Il y a eu des thèses récentes sur un certain nombre.